Ils ne se firent pas de mauvais sang. Aureliano et Amaranta Ursula ignoraient le précédent qu'il y avait eu dans la famille et ne se souvenaient pas davantage des avertissements épouvantables d'Ursula, et la sage-femme acheva de les tranquilliser en émettant l'avis que cette queue inutile pourrait être coupée au moment où l'enfant pousserait de nouvelles dents. Par la suite, ils n'eurent plus l'occasion d'y repenser, car Amaranta Ursula était en train de perdre tout son sang qui jaillissait sans qu'on pût l'arrêter. Ils essayèrent de la secourir avec des compresses de toile d'araignée et des colmatages de cendres, mais c'était comme de vouloir boucher un jet d'eau avec les mains. Au cours des premières heures, elle faisait des efforts pour garder sa bonne humeur. Elle prenait la main d'Aureliano, qu'elle voyait effrayée, le suppliait de ne pas s'en faire, disant que les gens comme elle n'étaient pas faits pour mourir contre leur gré, et étouffait de rire devant les truculents expédients auxquels avait recours la sage-femme. Mais au fur et à mesure que tout espoir abandonnait Aureliano, elle se faisait de moins en moins visible, comme si on était en train de l'effacer de la lumière, jusqu'à ce qu'elle sombrât dans un profond sommeil. Le lundi, à l'aube, ils firent venir une femme qui récita à son chevet des prières cautérisantes, infaillibles pour les hommes autant que pour les bêtes, mais le sang passionné d'Amaranta Ursula était insensible à tout autre moyen que l'amour. Dans l'après-midi, au bout de 24 heures de désespoir, ils reconnurent qu'elle était morte. En voyant le débit tarir de lui-même, son profil devenir effilé, les rougeurs de son visage s'évanouir en une aurore d'albâtre, et qu'elle se mit de nouveau à sourire. Il fallait qu'Aureliano en arrivât là pour comprendre combien il aimait ses amis, combien il lui manquait, combien il aurait donné pour se trouver avec eux à ce moment-là. Il déposa l'enfant dans la corbeille que sa mère lui avait préparée, recouvrit le visage du cadavre avec une couverture et erra sans but à travers le village désert, en quête de quelque étroit passage par où revenir au passé. Il frappa à la porte de la pharmacie, où il n'était pas retourné ces derniers temps, et n'y trouva rien d'autre qu'un atelier de menuiserie. La vieille, qui lui ouvrit, portant une lampe à la main, compatit à son égarement, mais persista à dire que non, ça n'avait jamais été une pharmacie, et qu'elle n'avait jamais connu de femme au cou délié et aux yeux endormis du nom de Mercedes. Il pleura, le front appuyé contre la porte de l'ancienne librairie du savant catalan, conscient de ce qu'il était en train de verser tous les arriérés de larmes d'une mort qu'il n'avait pas voulu pleurer en son temps, pour ne pas rompre les sortilèges de l'amour. Il se brisa les poings contre les murs de ciment de l'Enfant d'Or, appelant Pilar Ternera, indifférent aux lumineux disques orangés qui se croisaient à travers ciel, et qu'il avait tant de fois contemplé avec une fascination puérile pendant les nuits de fête depuis le patio au Butor. Dans le dernier bal ouvert du quartier de tolérance abandonné, un ensemble d'accordéons jouait les airs de Rafael Escalona, le neveu de l'évêque, héritier des secrets de Francisco Lomme. Le buvetier, qui avait un bras tout sec et comme grillé pour l'avoir levé sur sa mère, convia Aureliano à boire une bouteille d'eau-de-vie, et Aureliano l'invita à en boire une seconde. Le buvetier lui parla des malheurs de son bras. Aureliano lui parla des malheurs de son cœur, tout sec et grillé pour l'avoir élevé vers sa sœur. Ils finirent par pleurer en duo, et Aureliano eut momentanément l'impression que sa douleur s'était calmée. Mais quand il se retrouva seul dans le dernier petit matin de Macondo, il ouvrit les bras au beau milieu de la place, résolu à réveiller le monde entier, et se mit à hurler de toute son âme « Les amis sont des enfants de putain !» Nigromanta le ramassa dans une flaque de vomi et de larmes. Elle le ramena dans sa chambre, le lava, lui fit boire une tasse de bouillon. Croyant le consoler ainsi, elle biffa d'un trait au charbon les innombrables amours qu'il lui devait encore et évoqua à dessein les plus solitaires des boires afin de ne pas le laisser seul dans les pleurs. Au matin, après un bref sommeil de plomb, Aureliano reprit conscience de son mal à la tête. Il ouvrit les yeux et se souvint de l'enfant. Il ne le trouva pas dans la corbeille. Sur le coup, il éprouva comme une explosion de joie à la pensée qu'Amaranta Ursula s'était réveillée de la mort pour s'occuper du bébé. Mais le cadavre faisait sous la couverture comme un monticule de pierre. Se rappelant qu'en arrivant, il avait trouvé la porte de la chambre ouverte, Aureliano traversa la véranda saturée par les exhalaisons matinales de l'origan et fit irruption dans la salle à manger où se trouvaient encore les vestiges de l'accouchement. La grande marmite, les draps ensanglantés, les pots de cendre et le cordon tout ortillé de l'enfant dans une couche dépliée sur la table, entre la paire de ciseaux et la ligature. L'idée que la sage-femme était revenue chercher l'enfant dans le courant de la nuit lui ménagea un moment de répit pour réfléchir posément. Il se laissa tomber dans le fauteuil à bascule, le même où s'était assise Rebecca aux temps héroïques de la maison pour dispenser ses leçons de broderie, et dans lequel Amaranta avait joué aux dames avec le colonel Guérinello Marquez, et où enfin Amaranta Ursula avait cousu la layette de l'enfant. Et, durant cet éclair de lucidité, il prit conscience de ce que son âme était incapable de résister à ce poids écrasant de temps de passé. Blessé par les lances mortelles de toutes ces nostalgies personnelles et étrangères à lui, il se mit à admirer l'impassible défi de la toile d'araignée dans les rosiers morts, la persévérance de l'ivraie, la sérénité de l'air dans cette aube radieuse de février. Et c'est alors qu'il vit l'enfant. Ce n'était plus qu'une outre gonflée et desséchée que toutes les fourmis du monde étaient en train de péniblement traîner vers leur repère souterrain par le petit chemin de pierre du jardin. Aureliano ne put faire un geste. Non qu'il fût paralysé de stupeur, mais parce qu'en cet instant prodigieux venaient de lui être révélées les clés définitives de Melquiades, et qu'il vit cette épigraphe de parchemin parfaitement mise en place dans le temps et l'espace des hommes. Le premier de la lignée est lié à un arbre, et les fourmis sont en train de se repaître du dernier. À aucun moment de sa vie, Aureliano n'avait été aussi lucide qu'en cet instant, où il oublia ses morts et la douleur de ses morts, et se remit à clouer portes et fenêtres avec les croisillons de Fernanda, afin de ne se laisser déranger par aucune tentation du monde extérieur. Car il savait à présent que dans les parchemins de Melquiades était écrit son destin. Il les retrouva intacts, parmi les plantes préhistoriques et les mares fumantes et les insectes lumineux qui avaient fait disparaître de la chambre toute trace du passage des hommes sur cette terre. Et il n'eut pas la sérénité de sortir les lyres à la lumière. Mais sur place, debout, sans la moindre difficulté, comme s'il les eût trouvés écrits en espagnol sous les rayons éblouissants de midi, il se mit à les déchiffrer à haute voix. C'était l'histoire de la famille, rédigée par Melquiades jusque dans ses détails les plus quotidiens, avec 100 ans d'anticipation. Il l'avait écrite en sanskrit, qui était sa langue maternelle, et avait chiffré les vers pairs à l'aide du code personnel de l'empereur Auguste, et les impairs avec les codes militaires lacédémoniens. La dernière défense qu'Aureliano commençait à percer à jour, quand il se laissa terrasser par l'amour d'Amaranta Ursula, avait consisté pour Melquiades à ne pas échelonner les faits dans le temps conventionnel des hommes, mais à concentrer tout un siècle d'épisodes quotidiens de manière à les faire tous coexister dans le même instant. Fasciné par cette trouvaille, Aureliano lut à haute voix, sans sauter une ligne, les encycliques chantées que Melquiades lui-même avait fait écouter à Arcadio et qui étaient en fait la prophétie de son exécution. Et il trouva annoncée la naissance de la femme la plus belle du monde, qui était en train de monter au ciel corps et âme. Et il apprit la venue au monde de deux défunts jumeaux qui avaient renoncé à déchiffrer les parchemins, non seulement par incapacité et inconstance, mais parce que leur tentative était prématurée. À ce point, impatient d'apprendre sa propre naissance, Aureliano sauta tout un passage. Alors commença à se lever le vent. Tiède et tout jeûnait, plein de voix du passé, des murmures des géraniums anciens, de soupirs de désillusion encore antérieurs aux plus tenaces nostalgies. Il n'y fit pas attention, car il était à cet instant en train de découvrir les premiers indices de son être, dans la personne d'un grand-père concupissant qui se laissait entraîner par la frivolité à travers un désert halluciné, en quête d'une très belle femme qu'il ne devait pas rendre heureuse. Aureliano le reconnut, continua de suivre les chemins occultes de sa descendance et découvrit l'instant de sa propre conception, entre les scorpions et les papillons jaunes d'un bain crépusculaire, où un simple ouvrier assouvissait son goût de la luxure avec une femme qui se donnait à lui par rébellion. Il était si absorbé qu'il ne perçut pas davantage la seconde et impétueuse attaque du vent, dont la puissance cyclonale arracha portes et fenêtres de l'orgon, souffla le toit de la galerie est et déracina les fondations. Ce n'est qu'alors qu'il découvrit qu'Amaranta Ursula n'était pas sa sœur, mais sa tante, et que Francis Drake n'avait pris d'assaut Rio Hacha que pour leur permettre de se chercher dans les labyrinthes du sang les plus embrouillés, jusqu'à engendrer l'animal mythologique qui devait mettre un point final à la lignée. Macondo était déjà un effrayant tourbillon de poussière et de décombres centrifugés par la colère de cet ouragan biblique, lorsqu'Aureliano sauta 11 pages pour ne pas perdre de temps avec des faits trop bien connus et se mit à déchiffrer l'instant qu'il était en train de vivre, le déchiffrant au fur et à mesure qu'il le vivait, se prophétisant lui-même, en train de déchiffrer la dernière page des manuscrits, comme s'il se fût regardé dans un miroir de paroles. Alors, il sauta encore des lignes pour devancer les prophéties et chercher à connaître la date et les circonstances de sa mort. Mais avant d'arriver au vers final, il avait déjà compris qu'il ne sortirait jamais de cette chambre. Car il était dit que la cité des miroirs ou des mirages serait rasée par le vent et bannie de la mémoire des hommes à l'instant où Aureliano Babylonia achèverait de déchiffrer les parchemins. Et que tout ce qui y était écrit demeurait depuis toujours et resterait à jamais irrépétible. Car aux lignées condamnées à 100 ans de solitude, il n'était pas donné sur terre de seconde chance.